Tout ça, aller sur la Lune et tout ça, c'est vraiment une bonne idée?
Je vais boire un petit peu d'abord. En tout cas, la question de la nuisibilité du travail, elle se pose, oui. Est-ce que je suis peut-être nuisible en faisant ça? Je pense qu'en tout cas que la question peut être posée.
Quand tu examines la science et les progrès humains, il y a toujours cette dualité entre ce que ça nous apporte et ce que ça nous coûte. Et c'est à nous à faire en sorte que ça nous rapporte plus que ce que ça nous coûte.
Pérennité, durabilité de l'espace, ça c'est quand même un nouveau jargon. Et donc qui dénote bien qu'il y a une problématique dont on a conscience et qui avance.
Hannah Arendt, en 1963, écrivait « En changement réel du monde humain, la conquête de l'espace ne sera achevée que lorsque des engins spatiaux transportant des êtres humains seront lancés dans l'univers afin que l'homme lui-même puisse aller jusqu'où à présent seule l'imagination humaine et son pouvoir d'abstraction, ou l'ingéniosité humaine et son pouvoir de fabrication, pouvaient aller. » 5 ans après la publication de ces lignes, l'homme posait son pied sur la Lune. Et pourtant, 50 ans plus tard, la question que pose la philosophe en filigrane de son texte est toujours lancinante. La conquête de l'espace par l'homme a-t-elle augmenté ou diminué sa dimension ? Dans le podcast Hector, on part à la rencontre des scientifiques de l'UNAMUR pour questionner la science, ses pratiques et ses évolutions. Avec eux, dans cette série en 3 épisodes, on va se propulser dans le cosmos et prendre de la hauteur sur la question de la conquête et de l'exploitation spatiale. Aujourd'hui, on va reconnaître que l'espace est un monde de connaissances, mais on va se demander s'il est un monde pour l'homme. La colonisation spatiale ne représente-t-elle pas une transgression majeure de l'attachement de l'homme à la Terre ? Que devient l'homme en s'éloignant de son berceau terrestre ? Et puis, pourquoi viser la Lune à l'heure où la Terre brûle ?
Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus Plantin. Épisode 3, péché spatial.
Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV.
1963. La philosophe juive Hannah Arendt publie un texte très peu lu, « La conquête de l'espace et la dimension de l'homme ». Hannah Arendt est alors professeure invitée en sciences politiques dans différentes universités américaines, puisque c'est aux États-Unis qu'elle a trouvé exil pendant la Seconde Guerre mondiale. Son essai d'une 20aine de pages clôture en recueil intitulé « La crise de la culture », qu'on peut lire à la bibliothèque universitaire Moretus Plantin. Et si elle l'écrit, ce texte, c'est que la révolution technologique à laquelle elle vient d'assister, Yuri Gagarin a été envoyé dans l'espace, on en parle dans l'épisode 2, eh bien ça suscite chez elle des questions philosophiques pétries d'émoi. Car cet envol, présenté comme une victoire de l'humanité dans la presse du moment, cet événement qui nourrit la propagande la plus intense, elle le trouve inquiétant. Hannah Arendt conteste que la conquête de l'espace soit susceptible d'accroître la dimension de l'homme. Plus encore, elle craint que l'orgueil de l'homme, par la prétention à manipuler la nature, mène à la destruction de l'espèce humaine. Hannah Arendt met en fait le doigt sur une tension extrême du XXe siècle, qui n'a d'ailleurs pas disparu avec lui, la dichotomie entre 2 sphères, celle de la science et celle de la société, celle qui oppose le savant et le citoyen.
Assurément, le savant ne peut se permettre de se poser la question « Quelles conséquences le résultat de mes investigations aura-t-il sur la dimension, ou dans cette perspective, sur l'avenir de l'homme ?» Ce fut la gloire de la science moderne que d'avoir été capable de s'affranchir de toutes ses préoccupations anthropocentriques, c'est-à-dire authentiquement humanistes.
Résolument inclassable, Hannah Arendt dénonce moins qu'elle décrit un phénomène alarmant dont elle imagine s'accommoder.
L'homme, pour autant qu'il se comporte en savant, ne se soucie guère de sa propre dimension dans l'univers. Ce désintéressement est son orgueil et sa gloire. Le simple fait que des physiciens aient désintégré l'atome sans la moindre hésitation, au moment même où ils ont pu le faire, bien que pleinement conscients des énormes potentialités destructrices d'une telle opération, montre que le savant en tant que tel ne se soucie même pas de la survie de la race humaine sur Terre, pas plus d'ailleurs que de la survie de sa planète. Toutes les mises en garde contre l'utilisation mauvaise de cette nouvelle puissance, et même le déchirement éprouvé par beaucoup de savants lorsque les premières bombes tombèrent sur Hiroshima et Nagasaki, ne saurait éclipser ce fait simple et brutal. car dans toutes ces tentatives, les savants n'agissent pas en tant que savants, mais en tant que citoyens. Et si leurs voix ont plus d'autorité que celle des profanes, c'est uniquement parce qu'ils détiennent une information plus précise. Des objections valables et plausibles contre la conquête de l'espace ne pourraient être élevées que si elles devaient montrer que toute l'entreprise pourrait se détruire elle-même spontanément.
Hannah Arendt exprime ici le paradoxe que j'avais spontanément relevé quand André Fusva, spécialiste de cosmologie à l'UNAMUR, me détaillait les enjeux de la recherche sur le voyage interstellaire dont on a parlé dans l'épisode précédent. Il expliquait que le voyage interstellaire, parce qu'il n'est pas interdit par les lois de la physique, est scientifiquement envisageable et qu'il y a fort à parier que dans le cynisme ambiant, avec cette quête d'une planète B, certains le tenteraient, alors même que son coût économique et écologique anéantirait ce qui resterait. Je dois juste reconnaître que, face à pareil sophisme, je m'étais interrogée avec un tout petit peu moins de classe qu'Hannah Arendt.
Donc on fait des recherches sur un truc qu'on se dit que ce serait quand même mieux de ne pas le faire ?
Mais oui, je pense qu'il faut faire des recherches anticipatives là-dessus, bien entendu. C'est dans cette optique-là que je l'ai fait.
Donc c'est travailler à l'idée qu'on pourrait réaliser un truc qu'on trouve nocif.
Je vais te donner mon point de vue. Dans la mesure où ce n'est pas physiquement impossible, il y a des groupements de scientifiques très sérieux qui bossent dessus, qui étudient des technologies, etc., pour le faire, etc. Et donc, comme ce n'est pas physiquement impossible, on va tenter la faire, parce que c'est dans notre nature. Et donc, si tu vas tenter la faire, il y a toute la question de préalablement se demander, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire plus largement ? Ce n'est pas uniquement le défi de le faire, c'est si c'est possible et qu'on tente la faire, quelles vont être les perversions, en fait ?
Le voyage interstellaire, donc le voyage vers un autre système planétaire que le nôtre, est un sujet de recherche pionnier, notamment à l'UNAMUR, avec la modélisation de voiliers-lumière relativistes et les calculs de trajectoire d'André Fusva. Le problème de ce voyage, c'est qu'il est une aberration sur les plans écologiques, économiques et éthiques.
Si tu estimes le coût énergétique, si tu prends des techniques plausibles, donc tu ne vas pas dans la science spéculative, etc., tu prends la physique actuelle, tu regardes les modes de propulsion qui permettraient de le faire, et tu te rends compte que le coût pour un voyage, je vais dire une mission habitée normale, avec quelques dizaines de tonnes de matériel, etc., enfin, peu importe, c'est l'équivalent de plusieurs dizaines d'années de production énergétique mondiale. Donc, si on se lance là-dedans, ça veut dire que ça va être vraiment un gouffre énergétique. Enfin, un, on ne sait pas le payer maintenant. Et si tu développes les technologies qui vont le faire, ce sont des technologies qui sont dangereuses, puisque non seulement elles sont un gouffre énergétique, au bénéfice d'un très petit nombre, et avec tous les dangers aussi de voir ces technologies utilisées par ailleurs.
Te donner même. Ce serait quoi alors, de mettre en garde sur toutes les...
Ça dépend comment tu fais ta recherche, mais oui, moi, dans les articles que j'ai publiés sur le voyage interstellaire, et qui sont dans des revues de physique, il y a dedans des mises en garde, je fais les calculs des coûts énergétiques, et je pose la question ouverte, ouais, ok, c'est possible, mais est-ce qu'il faut le faire ? Et pourquoi veut-on le faire ?
La question qui est en jeu ici, c'est celle du coût du progrès. Du coût au sens propre comme au sens figuré. Pourquoi investir autant d'argent dans la recherche spatiale alors que les besoins sont si grands sur Terre ? Et quel est le prix, quel est le tribut que nous sommes prêts à payer face à la science moderne ? Peut-on vendre son âme au diable ? Pour Hannah Arendt, la réponse est étonnamment claire.
La grandeur de l'entreprise spatiale me paraît indiscutable. Et toutes les objections élevées contre elle sur un plan purement utilitaire, c'est trop cher, l'argent serait mieux employé à l'instruction et à l'amélioration du sort des citoyens, à la lutte contre la pauvreté et la maladie, ou toute autre bonne intention qui viendrait à l'esprit, me semble un tant soit peu absurde, au regard de ce qui est en jeu et dont les conséquences sont encore aujourd'hui tout à fait imprévisibles.
On ne peut pas être réfractaire au progrès parce qu'on ne reviendra pas à l'âge de la pierre. C'est fini. Comme je te dis, la boîte de Pandore, elle est ouverte. La seule question, c'est de pouvoir l'accompagner. C'est pour ça que je pense que des recherches exploratoires qui essaient aussi de se projeter dans l'optique où ça serait possible, quels seraient les effets pervers et les effets nocifs, c'est important. C'est de l'éthique préalable, si tu veux.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même beaucoup d'argent qui est mis dans ce domaine de recherche ?
Dans le spatial, oui. Bien sûr, maintenant, c'est quoi beaucoup d'argent ? Parce que la Coupe du Monde du Qatar, c'est 200 milliards de dollars.
Oh, tu sais, quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Le budget de l'armée américaine, annuel, c'est 600 milliards d'euros. Le budget de l'armée européenne, c'est à peu près du même ordre de grandeur. C'est 400-500 milliards d'euros par an. La Station Spatiale Internationale, le coût total, c'est 100 milliards de dollars. Voilà. Ça te donne une idée. Dans la mesure où la science est fondamentale et sous-financée, il y a toujours des guéguerres intestines où les gens trouveront que c'est jamais la leur qui est assez financée. Donc ça, tu n'échapperas pas à ce genre de choses. Quand tu regardes par rapport à ce qui se fait en biotechnologie et en médecine, on rigole, quoi. Là où c'est véritablement scandaleux, c'est quand tu compares le fric qui est englouti dans des disciplines de sciences dures ou commercialisables par rapport aux sciences humaines et par rapport à l'art aussi.
On va nous parler de sciences en tout cas moins rentables. Il y a une rentabilité justement sur la science.
C'est dommage. Parce qu'on veut la rentabilité de la science, mais fondamentalement, la science n'a pas à être rentable. Je suis désolé. Parce que développer des connaissances, peu importe la discipline, c'est exigeant, et donc c'est formateur, ça fait de nous des meilleures personnes.
Les enjeux directs de la recherche dépassent souvent les scientifiques qui ont l'enseignement et l'accumulation des connaissances dans la peau, qui travaillent pour la beauté du geste, par passion, par vocation, qui sont convaincus que la recherche est un investissement en occasion d'investissement ultérieur. Souvent, on nous demande à nous, chercheuses, chercheurs, de façon un peu provocante, léger sarcasme niché dans la voix, tu cherches, mais est-ce que tu trouves ? On n'ose pas le dire franchement, ça fait mauvais genre dans cette société gouvernée par la rentabilité, mais en fait, parfois, on s'en fout de trouver. On veut juste apprendre, comprendre, transmettre.
L'homme a toujours été curieux, et donc c'est normal d'essayer d'assouvir notre curiosité.
Anne-Sophie Libert, professeure en mathématiques appliquées à l'UNAMUR.
On peut regarder près, on peut regarder loin, on peut regarder dans toutes les directions, et ça je pense que c'est la nature humaine d'aller chercher dans toutes les directions et d'aller essayer de chercher le plus d'informations. Donc je pense que ça a réellement du sens d'aller chercher ailleurs, même si on ne connaît pas tout autour de nous.
Dominique Lambert, philosophe des sciences à l'UNAMUR.
On ne peut pas museler chez l'être humain sa curiosité fondamentale. Il y a quelque chose dans l'humain qui le pousse à toujours plus loin, à explorer lui-même et explorer son environnement. Et il y a quelque chose dans cette exploration qui est de l'ordre aussi de la gratuité, on parle du coût, mais beaucoup qui se lancent dans la recherche spatiale ou quand on parlait des vocations des jeunes, etc., ils ne s'embarrassent pas de ces questions de coût. Eux, ils sont émerveillés par le champ immense à découvrir, etc.
Car les mystères sont encore nombreux. Malgré les connaissances extraordinaires engrangées ces derniers siècles, on sait encore peu de choses sur les conditions qui entourent l'émergence de la vie et la formation des planètes. Comment le système solaire fonctionne-t-il? Quelles sont les lois fondamentales qui régissent l'univers? Comment l'univers est-il né et de quoi est-il constitué? Ce sont des questions existentielles qui occupent toujours les recherches actuelles, comme celle d'Alexis Coyette, intégré à la mission JUICE, envoyée vers Jupiter.
Il y aura deux objectifs principaux, en fait, d'étudier le système de Jupiter, qui est un système en fait, avec une planète et beaucoup de petits satellites de lune, disons, autour de Jupiter, pour voir comment ce système a pu se former, et également voir comment notre système solaire a pu se former également. Puisque le système de Jupiter, c'est un peu un mini-système solaire, donc en étudiant la formation de ce système-là, on peut aussi étudier la formation de notre système solaire dans son ensemble. Et l'autre grand objectif, même le principal, c'est d'étudier les conditions d'apparition de la vie sur une planète. Alors on pourrait se dire, la vie sur Jupiter, c'est pas possible. Alors effectivement, sur Jupiter, non. Mais par contre, sur ses satellites, de nouveau, ça pourrait être le cas.
En clair, la recherche spatiale est donc conçue par les chercheuses et les chercheurs comme fondamentale, inévitable, irrésistible, en dépit des dangers qu'elle implique.
C'est toute l'ambiguïté, et c'est vrai pour toutes les technologies, toutes les activités humaines. Il y a cet antagonisme, c'est plus que le bien et le mal, il y a cet antagonisme entre exploration, exploitation, domination et coopération. C'est dans notre ADN, c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Après, c'est pour ça que c'est important de savoir comment nous faisons les choses, pourquoi nous les faisons. Et donc aussi d'anticiper les trucs, il ne faut pas aller faire les cow-boys, etc., pour se poser des questions sur l'utilité de faire les choses, de comment les faire et de comment les rendre durables, et soutenables pour l'espèce.
Comment bien faire les choses alors ? Dans le contexte actuel, la réflexion éthique porte sur plusieurs aspects. Il y a la question de la pollution et des débris spatiaux engendrés par l'exploration spatiale, et celle de la commercialisation de l'espace et de sa propriété donc. À qui appartient le cosmos ? En creux, c'est une philosophie de la conquête spatiale qui est interrogée. La conquête spatiale, dans la bouche de Jeff Bezos, est drapée d'une vocation écologique puisque le milliardaire veut aller dans l'espace pour, dit-il, sauver la Terre. C'est là une rhétorique cynique quand on sait combien la colonisation spatiale est source de pollution. Une pollution pour la Terre, une pollution pour l'espace. Cette tension-là, elle préoccupe aussi les scientifiques qui s'investissent dans la recherche sur le spatial. Boris Espels, biologiste à l'UNAMUR.
Alors, je vais parler très personnellement, je veux dire, je suis convaincu qu'il faut réduire notre dépense énergétique de façon radicale, il faut changer radicalement notre forme de vie et je vais travailler dans un domaine qui n'est pas du tout là-dedans. Mais oui, ça pose clairement question. Et d'ailleurs, dans les gens avec qui on a travaillé, il y a des gens à un moment donné qui ont dit « moi je vais faire autre chose parce que j'ai envie d'autre chose dans ma vie, j'ai envie d'un autre monde que ça aussi ».
Donc des fois tu veux dire que ça se heurte à tes valeurs ?
Oui.
Je dirais que c'est un peu comme sur Terre.
Jérôme Daquin, mathématicien.
Enfin, on sait très bien qu'aujourd'hui, on devrait prêcher un mode de vie qui tire vers la décroissance, mais c'est pas du tout ce qu'on fait. C'est comme, je veux dire, bon, il y a de la pollution dans les océans, ça nous empêche pas aujourd'hui d'envoyer toujours des cargos, d'avoir des cargos qui polluent ou...
On reste tous là, les bras ballants, devant ce monde qui brûle et on se moque de ceux qui voudraient le sauver en triant leurs déchets. Je sais que je vais mourir, mais je continue souvent à agir comme si j'allais être éternel. Je sais que je vais mourir, et pourtant, je peux passer ma matinée à essayer de régler un problème qui n'en vaut pas la peine. Je suis pas très original.
Le problème de pollution, il se pose surtout là-haut. Aujourd'hui, l'espace est déjà en dépotoir, peuplé de vieux satellites et d'étages de lanceurs. Depuis le début de l'aventure astronautique en octobre 1957, c'est plus ou moins 10 000 satellites et sondes qui ont été envoyés. Et 10 000, c'est rien par rapport à ce qui nous attend dans les prochaines années. L'avènement du New Space, associé à une démocratisation forte de l'accès à l'espace et des technologies de satellites, laisse penser qu'environ 100 000 nouveaux satellites pourraient être lancés d'ici 2030. André Fusfa, professeur au département de mathématiques de l'UNAMUR, spécialiste de relativité générale et de cosmologie.
C'est le nouveau terrain de domination où les gens se battent. Maintenant, ça devient aussi un terrain d'exploitation économique où on essaie de trouver des nouveaux modes d'exploiter économiquement l'espace. Un exemple que je peux te donner, c'est les méga-constellations de satellites. Donc, c'est les nouveaux projets de télécommunications de Musk, Bezos, etc. Le projet de Musk, c'est 20 000 satellites en orbite basse pour faire une couverture Internet à haut débit sur toute la planète, entre 10 000 et 40 000. Il faut savoir que ça sera entre 5 à 8 fois plus que tous les satellites qui sont déjà actuellement en orbite. Techniquement, après, tu vas proposer des services Internet qui, en fait, d'un point de vue technologique, il y a des alternatives. En Europe, c'est la fibre optique, te donne la même vitesse de connexion Internet que les satellites de Musk. Le seul truc où c'est intéressant, c'est pour des endroits où il n'y a pas la fibre optique. Aux États-Unis, les infrastructures ne sont pas bonnes, et dans des régions désertiques, etc. Mais c'est là où c'est un peu se moquer du monde, c'est que ce n'est pas tes quelques ploucs qui vivent dans les déserts aux États-Unis qui vont aller financer avec leur abonnement les milliards de dollars que ça coûte. Donc la part de marché pour rentabiliser ce projet-là, tu vas devoir aller chercher des clients dans les villes où des alternatives existent. Donc c'est l'exploitation commerciale de l'espace, créer un besoin là où il n'y en avait pas.
À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Or, ce changement majeur de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, il pose de nombreuses questions, dont celle, surtout, des débris spatiaux. 36 000 gros objets orbitaux ont déjà été identifiés à ce jour. Gros, ça veut dire des objets de plus de 10 cm, qui ensemble représentent quelques 9 000 tonnes. C'est de cela dont nous parle Jérôme Daquin. Il est chargé de recherche FNRS au département de mathématiques de l'UNAMUR et il travaille sur la thématique des débris spatiaux.
On a des débris dans l'espace. L'analogie, c'est vraiment la pollution qu'on retrouve dans nos océans.
Mais donc si l'analogie, c'est nos océans, l'espace, c'est illimité. Donc est-ce que vraiment c'est grave d'avoir 30 000 objets dans l'espace ? C'est vraiment en dépotoir ?
Ça l'est, et puis il y a un risque aussi de... Je dirais que c'est grand, mais les objets, avec les lois de la gravité, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, restent autour, c'est-à-dire qu'ils tournent autour de la Terre. Donc ils sont en orbite autour de la Terre, donc ils ne s'en vont pas comme ça, ils ne s'échappent pas a priori. Ils ont un mouvement qui est confiné au voisinage de la Terre, et ils orbitent comme ça la Terre. Et du coup, on pourrait imaginer qu'à terme, il pourrait y avoir une espèce d'anneau, comme un anneau de Saturne autour de la Terre, et du coup, satelliser depuis le sol terrestre, ça serait impossible parce qu'il faudrait percer un peu cet anneau.
pollution lumineuse qui entrave l'observation de l'espace, risque vis-à-vis des populations au sol, car oui, il est fréquent de retrouver sur Terre des objets de plusieurs dizaines, voire centaines de kilos revenus aléatoirement, impossibilité d'utiliser les ressources extra-atmosphériques dont nous bénéficions quotidiennement, je vise les télécommunications, la défense, la télémédecine, bref, l'accumulation des débris spatiaux est une menace écologique, une vraie. Une d'autant plus sérieuse que guette le syndrome de Kessler, un phénomène de réaction en chaîne assez logique. Des débris spatiaux qui entrent en collision génèrent de nouveaux débris qui, à leur tour, augmentent le risque de collision orbitale. Autrement dit, le nombre d'objets s'accroît de façon exponentielle, même quand on ne fait rien du tout, même en l'absence de toute nouvelle activité spatiale. Et là, me revient en tête l'intrigue du film Gravity d'Alfonso Cuarón, sorti en 2013. La navette d'une experte en ingénierie médicale et d'un astronaute est pulvérisée par un nuage de débris spatiaux occasionné par la destruction d'un satellite. Gravity, malheureusement, c'est un film qui tient la route scientifiquement, selon André Fusfa.
Il y a toujours des choses que tu peux discuter parce qu'il a fallu tordre le cou un peu pour avoir l'arc narratif en une heure et demie, etc. Il a fallu tordre un peu le cou aux distances, aux machins.
Dans le podcast aussi, on va devoir tout réduire.
Tout à fait.
Mais ça reste de la science-fiction, voilà. Ça doit un peu jouer avec les limites
de la
science.
Mais là, t'as quand même une très bonne qualité scientifique, etc. aussi, plus un message, plusieurs messages qui sont passés.
Parmi ces messages, le réel risque que constitue le dépotoir extra-atmosphérique qui se développe en orbite et qui gonfle plus que jamais depuis l'avènement du New Space.
Là aussi, les satellites de Musk sont en orbite basse, ils sont désorbités naturellement après 5 à 10 ans. Mais c'est quoi un satellite de télécommunication ? Il y a un tas de matériaux dedans, qui sont dedans, terres rares, etc. Il y a plein d'électroniques qui sont dedans. Les satellites, je crois qu'ils font 150 kilos la pièce. Donc t'imagines le nombre de tonnes qui va se désintégrer dans quand on va en envoyer quelques milliers, on va désintégrer quand même quelques tonnes de déchets qui vont se vaporiser dans l'atmosphère. Et ça, personne n'a regardé, Musk n'a absolument pas regardé l'impact que ça pouvait avoir en termes de pollution.
Ah, mais il faut que ça fume plus, il faut polluer, prenez.
C'est un problème dont on a conscience.
Jérôme Daquin, mathématicien.
C'est une thématique dont les gens sont au courant. Il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de startups qui se sont créées et qui font même de l'argent avec ça. Donc c'est un problème bankable, quoi. Je veux dire, les gens font une sorte de commerce autour de cette pollution, un business. Alors je dis pas forcément qu'ils font un business et qu'ils sont mal intentionnés. Hein. Je dis pas qu'ils surfent juste une vague pour se faire de l'argent sur un problème écologique. Mais c'est vrai que on a vu beaucoup de startups ces dernières années qui ont un peu comme ça poussé, comme des petits champignons. Ça n'existait pas il y a 10 ans, quoi.
Depuis une vingtaine d'années, en fait, des entreprises étudient l'opportunité de nettoyer l'espace en allant accrocher, au moyen d'un bras robotisé ou de tout autre système de pinces, des débris cibles à entraîner pour un plongeon final dans le sud de l'océan Pacifique. C'est le cas notamment de la start-up ClearSpace en Suisse, qui planifie sa première mission de désorbitation d'un débris spatial de 120 kg et de 2 mètres d'envergure en 2025. L'ambition, à terme, est d'aller rechercher dans l'espace des objets non coopératifs de plus de 5 tonnes. Ça, c'est en quelque sorte une approche active. On va nettoyer l'espace. À l'UNAMUR, Jérôme Daquin planche davantage sur une approche passive pour lutter contre la pollution spatiale.
Moi, ce que je fais, moi et mes collègues, alors mathématiciens, on est dynamiciens, donc on s'intéresse à une branche des mathématiques qu'on appelle les systèmes dynamiques. Et les systèmes dynamiques, c'est-à-dire on essaie de comprendre les propriétés d'un quelque chose qui bouge au cours du temps. Notre quelque chose à nous, c'est des débris ou des satellites. Et on essaie de comprendre comment ces choses-là bougent sous les lois de leur environnement, donc essentiellement la gravité. Et on essaie d'inférer les propriétés à long terme des trajectoires. Et donc l'idée, c'est de définir comme ça des orbites qu'on appelle cimetières, en disant, si vous mettez votre satellite ici en fin de mission, vous êtes sûr qu'il va se comporter de telle ou telle façon et qu'il ne sera pas un risque pour d'autres satellites puisqu'il est sur une trajectoire ultra stable. Ou au contraire, on essaie de comprendre où sont les trajectoires super instables en disant, attention, ne les mettez pas là parce qu'il va y avoir une déformation de l'orbite qui peut éventuellement engendrer un risque conséquent pour d'autres orbites.
L'idée, c'est donc de préserver l'avenir en garantissant des opérations orbitales propres, en déterminant à l'avance les zones où abandonner en satellite en fin de vie. Jérôme Dakin modélise aussi ce qu'il appelle des valses chaotiques. Et quand on regarde les simulations numériques de Jérôme Dakin, c'est presque aussi beau qu'une valse de Strauss.
Et ce que tu vois là, derrière, c'est justement les mers de chaos qu'on s'est révélées.
Cette fois, le plan, c'est d'utiliser les courants des mers de chaos pour emporter et désorbiter en débris spatial inerte.
Et tu vas voir comment ce cluster de... ce cluster de Galiléo évolue en fonction du temps, en fonction de la valse un peu chaotique. Donc tu vois, au début, tout se passe bien, ils bougent un peu, ils sont encore tous ensemble, et puis le temps passe, et là, tu vois, ils sont déjà un peu traînés vers le haut, et là, le cluster où il y avait au début, ils étaient tous les mêmes, tu commences à les voir tous un par un, donc là, je sais pas, il y avait 200 satellites, et tu vois qu'ensuite, ils se dispersent tous comme ça, ils se font littéralement valdinguer par la mer de chaos. Et pourquoi c'est utile? Alors là, pareil, c'est utile, je dirais conceptuellement. Peut-être qu'un jour, on utilisera cette chose-là. Parce qu'en fait, on utilise le chaos que je vais te montrer ici pour augmenter, mais là, ça devient un peu technique, l'excentricité de l'orbite. Et en augmentant l'excentricité de l'orbite, en fait, on arrive à emmener un objet qui était très distant au voisinage de la Terre, là où la traînée atmosphérique va provoquer sa chute, en fait. On est dans une région de l'espace ici où il n'y a pas de frottement. D'accord. Donc,
et on veut provoquer sa chute.
On veut provoquer sa chute, exactement. Donc, dans une région où il n'y a pas de frottement, il n'y a que la gravité. Donc, a priori, t'as un temps de vie infini. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais on peut dire ça comme ça. Et donc, on sait le ramener quand même en utilisant le chaos dans une région où il y a de la friction. Et une fois qu'il y aura la friction, la traînée atmosphérique prend le relais et elle le tue à notre place. Donc, c'est un peu indirect, tu vois. Donc, nous, on a mis en place ce scénario-là.
Peut-être qu'un jour, on utilisera cette chose-là, qu'il a dit, Jérôme Dakin. Ce qu'il formule en creux, c'est un des problèmes de la recherche fondamentale. Son manque d'écho, parfois, dans la sphère publique. En l'occurrence, cette solution mathématique, disons non-invasive plutôt que passive, n'est pas assez sexy sur le plan politique.
Je dirais malheureusement, les échelles de temps en jeu sur ce mécanisme-là, elles sont trop longues pour les politiciens. C'est-à-dire que ce genre de truc-là, c'est il faut attendre 20 ou 30 ans. Et en général, c'est un temps qui est trop long. Donc si ce scénario-là, par exemple, était associé à des échelles de temps de l'ordre de 5 ans ou 6 ans, voilà, si à cause des propriétés dynamiques, tout ça ne prenait que 5 ans, ça aurait été génial. Bon, il se trouve que ça prend 25 ans. Alors c'est pas un temps infini, 25 ans. Mais c'est un peu trop long pour les politiciens. D'accord. Qui sont en général omnibulés par ce qui va se passer le temps du mandat.
Et puis, le nombre d'acteurs engagés sur la thématique de l'espace est aujourd'hui tel qu'il faudrait qu'il y ait un consensus global qui émerge.
Mais ça, c'est un peu quand même chimérique. Enfin, je veux dire, il suffit de s'asseoir en famille le dimanche et d'être à 10 autour d'une table pour voir que c'est pas facile quand on est plus de 10 d'être d'accord.
Mais alors, n'est-elle pas frustrante cette recherche déconnectée du monde réel? N'a-t-on pas l'impression de travailler pour rien, de n'être pas entendu?
Non, c'est tout à fait beau. On peut proposer des solutions qui ne sont que des solutions académiques. Je dirais qu'ils n'ont pas forcément vocation à être tout de suite appliquées dans le monde réel. Je veux dire qu'une solution, elle peut exister aussi en elle-même. Et elle peut avoir aussi un intérêt en elle-même, sans vouloir forcément se confronter au monde physique.
Je pose la question de l'impact direct de la recherche, mais c'est rhétorique. On a déjà parlé de cette notion de rentabilité de la science, et Jérôme Dakin est clairement en passionné de la première heure.
Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que certains problèmes ont leur existence sur le plan des idées seulement. Et peut-être qu'un jour, ils trouveront application dans le monde physique, mais beaucoup plus tard. Par exemple, on pourrait penser à... si on fait la généalogie un peu des mathématiques, si on revient un peu aux pythagoriciens, les nombres, l'étude des nombres premiers, voilà, c'était qu'une, je dirais, une masturbation intellectuelle. Mais on s'est rendu compte après coup que, par exemple, la compréhension des nombres premiers, etc., ça a engendré des choses pour... Je pense à la sécurisation et la cryptographie. Mais ça, c'est venu beaucoup plus tard. Donc au début, on étudiait un problème pour la beauté du geste et qui ensuite s'est matérialisé dans le monde physique. Ce que je veux dire, c'est pour le problème des débris, moi, dans le quotidien, je pense pas systématiquement aux enjeux éthiques. Mon problème, c'est ramener un jeu d'équations, et je m'arrache déjà les cheveux que j'ai pu pour essayer de comprendre ces équations. Donc je fais pas forcément toujours les allers-retours.
Et puis quand même, il y a aussi les collaborations concrètes entre la recherche fondamentale et le monde industriel, dès maintenant. Le département de mathématiques de l'UNAMUR, Jérôme Daquin et Matteo Romano en particulier, mènent ainsi un projet avec Aerospace Lab, une entreprise belge spécialisée dans le domaine de la construction de satellites artificiels.
Ce qu'on a fait avec Matteo, c'est qu'on part de la population des débris spatiaux et on la transforme en un réseau. Un réseau, c'est des nœuds et des barres, un graphe. On met en place des espèces de space écolabels où on essaie de dire, voilà, cette orbite, elle est bonne, on met un petit A et un petit carré vert. Ce type d'orbite, elle n'est pas bon, on met une lettre D et un carton rouge. Un peu comme pour mimer les pollutions environnementales, quoi. L'output du produit, c'est vraiment, la finalisation, c'est de proposer une métrique qui dit aux gens, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est un bon score, ça c'est pas un bon score, et c'est mieux de faire ci ou de faire ça. Okay. Donc ça, c'est très, très concret, ouais.
Tant mieux, car il est urgent de sauver nos orbites basses pour pérenniser nos opérations spatiales. Il est urgent de réguler l'envoi de nouveaux satellites, de définir des règles claires concernant l'utilisation de l'espace. Autrement dit, il est urgent pour des questions de pollution, d'éthique et d'économie, de développer le droit spatial qui existe déjà. Dominique Lambert, philosophe des sciences à l'UNAMUR.
Dès le début de la recherche spatiale ou de l'exploration spatiale, les différents acteurs et les nations ont discuté des règles permettant de gérer la recherche spatiale. Et les Nations Unies, dans le cadre des Nations Unies, on a eu très vite un traité, dès 67, on a un traité de l'espace qui fixe des fondements juridiques à l'exploration et l'exploitation finalement de l'espace.
Cette dimension éthico-juridique est fondamentale. Depuis 1967, les traités internationaux se sont enchaînés. Dans chacun, l'humanité est mise au centre du texte.
Dans le premier traité, ça m'avait fort frappé, on utilise pour les astronautes, pour les cosmonautes, le terme de « envoyer d'humanité dans l'espace » d'une certaine manière. Donc, témoin de l'humanité. C'est une aventure humaine qui manifeste quelque chose de l'humanité. Et un peu comme le CERN, dont la devise est « la science pour la paix », la recherche spatiale, telle qu'elle devrait être, pourrait montrer à la face du monde une activité de personnes qui œuvrent à la paix, qui œuvrent, quelle que soit leur diversité culturelle, nationale, etc., philosophique, qui pourrait contribuer à une œuvre commune.
Dans ces textes, on retrouve aussi d'emblée l'exigence d'une non-appropriation de l'espace, espace conçu comme un patrimoine commun de l'humanité. Le ciel appartient à tous. Autrement dit, quiconque a les moyens techniques d'investir l'espace est en droit de le faire et personne ne peut l'en empêcher, pour peu que la place soit libre. En 2015, le Space Act, signé par l'administration Obama, a poussé le raisonnement jusqu'au bout, en ouvrant l'espace à l'exploitation économique par les acteurs privés. Le texte est controversé, tant il tente d'imposer une nouvelle lecture des traités internationaux et d'en forcer l'adaptation aux nouvelles dynamiques commerciales. Au fond, il repose la question mal tranchée de l'appropriation de parties de l'univers à des fins particulières. Comment passer d'en bien commun à en bien exploité par quelques-uns seulement? Comment peut-on occuper et exploiter sans s'approprier? Juristes et éthiciens ont plus que jamais du pain sur la planche pour protéger le ciel.
Il faut trouver une manière d'éviter cette surexploitation et de refaire dans l'espace ce que nous avons fait ici, en polluant, ouais, en exploitant, etc. Et donc, moi je suis tout à fait d'accord, il faut absolument renforcer les dispositifs juridiques pour non pas empêcher l'humanité de trouver d'autres ressources qui permettraient de la faire vivre, mais de ne pas polluer et de rester dans un régime effectivement d'exploration spatiale durable à tous les niveaux.
Quelle infamie! Où sont passées la nature et les forêts? Tout est laid! Il n'y a plus un hectare sauvage pour chasser. L'air est suffocant, ça pue !
C'est là que l'Alliance européenne universée dévoile sa plus belle importance. Elle place l'humain au cœur des démarches scientifiques, alors que les sciences humaines occupent justement une place de choix à l'UNAMUR, y compris au sein des départements de physique et de mathématiques.
C'est plus qu'une sensibilité, c'est la marque de fabrique de la baraque.
André Fusfa, professeur au département de mathématiques.
Les technocrates que nous sommes sont formés en sciences humaines et c'est obligatoire à Namur et c'est un des derniers endroits en Belgique. Il faut le garder parce que c'est pas du temps perdu, que du contraire. Je pense que ça nous donne aussi déjà, très concrètement, des compétences pluridisciplinaires. Parce que quand tu as des cours d'éthique, tu apprends d'autres méthodologies en philo, etc. Histoire des sciences, c'est important aussi. Parce que tu apprends des choses de méthodologie. C'est plus que de la culture générale, c'est des questions de méthodologie. Donc ça te prépare vraiment pluridisciplinaire. Donc c'est très bon pour la suite. Et puis, c'est une plus-value pour ton métier après, quoi. Et pour les enjeux sociétaux, etc. Pour pouvoir aussi être, je pense, un expert qui sait aussi aller parler des enjeux sociétaux comme on le fait ici, et donc des enjeux sociétaux dans un cadre politique ou dans un cadre citoyen, et aller expliquer ça aux gens. Donc oui, c'est vraiment important. On ne forme pas que des experts en technique, il faut quand même aussi que les gens voient un peu plus loin que le guidon, quoi.
J'ai vu de sinistres savants sabrer en s'essuyant les pieds sur cet astro refait d'argent. Un champagne au but le vicier. J'ai pleuré pour l'enterrement, pour l'enterrement de la lune, de croque-mort sauté gaiement d'un cabriolet de fortune.
Consensus donc sur la nécessité d'encadrer l'exploration spatiale d'une réflexion philosophique, éthique et juridique. Sur la nécessité de poser des règles, d'élaborer un droit spatial qui permettrait de respecter la Terre. Le problème, c'est que même si les règles existent, il n'y a pas de gendarmes dans l'espace pour les faire respecter. Parfois, on a donc la dérangeante sensation que tout cela reste un vœu pieux.
Ce n'est jamais une obligation de signer un traité, mais un certain nombre de nations, conscientes de leurs responsabilités, peuvent signer justement des traités. C'est ce que les nations en pleine guerre froide, les nations ont signé, adhéré à ce traité de l'espace. Moi je dirais que ce n'est jamais une obligation, mais c'est un devoir moral quand on sait ce que l'on veut donner comme image de la recherche spatiale. Et si on veut aussi, d'un point de vue ne fût-ce que utilitaire, si on veut que la recherche puisse continuer, il ne faut pas scier la branche sur laquelle la recherche est assise.
Autrement dit, c'est une simple question de bon sens. Nous avons tous intérêt, parce que c'est notre science, parce que c'est notre terre, à respecter les règles.
C'est intéressant de voir que l'éthique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne s'oppose pas du tout à la recherche, mais promeut d'une certaine manière une recherche à face humaine et ouverte à toutes les nations.
L'éthique est là pour protéger la recherche, notre velléité d'aller plus loin, notre rêve de conquête sur d'autres planètes ou sur la Lune. Sans elle, nous sommes condamnés à une fuite en avant irraisonnée ou à un immobilisme ou encore à une régression aux conséquences imprévisibles.
Une éthique au service de la recherche. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la pollution de l'environnement terrestre proche, en multipliant, disons, les débris. C'est un problème qui, dès les années 50, je pense ici à Georges Lemaître, avait attiré déjà dans les années 50 l'attention sur le fait que si on multiplie les débris pour des raisons de curiosité ou d'utilité, alors la radioastronomie serait en danger. On risquerait de polluer l'environnement et la science elle-même, ça se retournerait contre la science elle-même. Donc ça, c'est une première chose. Si on va contaminer les sites que l'on explore en n'étant pas prudent sur le genre de pathologie qu'on pourrait y amener, etc., alors ça va se retourner contre l'exobiologie. Donc l'éthique est là pour, d'une certaine manière, rendre possible la science à long terme en évitant que un certain nombre de gestes ou de protocoles se retournent contre elle.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit dans l'épisode 2 que la science-fiction d'aujourd'hui, avec ses blockbusters qui triomphent au box-office, on a dit qu'elle foulait aux pieds la nature même du genre, en s'éloignant de la probabilité scientifique et en négligeant de proposer une réflexion sur le monde. Mais ce n'est pas vrai pour tous les films. Le voyage spatial, si souvent prétexte à la gloriole patriotique, reste parfois en motif d'introspection. Marion Allais, historienne du cinéma.
S'il y a quand même un certain renouveau peut-être de la science-fiction,
ces dernières années et qui est en lien avec l'Anthropocène, en fait, le voyage dans l'espace pour trouver autre chose parce que la Terre est perdue. Et c'est la faute des hommes et de la technologie des hommes. C'est tout l'aspect immoral du déplacement de la population, de ce qui restera de la population peut-être un jour, parce que Interstellar, c'est ça en fait aussi, et d'autres films, hein, là on peut en citer d'autres, mais c'est essayer de trouver un autre endroit habitable pour l'espèce humaine.
Et de faire croire qu'il y en a un.
De faire croire qu'il y en a un, mais c'est surtout, est-ce qu'on doit se concentrer là-dessus ou est-ce qu'on doit plutôt se concentrer sur ce qui est là, ici, maintenant ? Est-ce qu'on peut faire pour sauver ce qui reste, en fait ? Et ça, certains films de science-fiction abordent cela de façon plus ou moins maladroite. Hein, voilà, on peut de toute façon en parler, on peut aller dans le détail, etc. Mais je trouve ça intéressant, cette nouveauté, depuis quelques années, de repenser l'Anthropocène.
Ces fables cinématographiques nous disent quelque chose de notre problème de société. Ce qu'elles posent comme question, c'est « Doit-on partir pour prendre soin de la Terre ?» Dans Gravity, par exemple, l'héroïne incarnée par Sandra Bullock développe une réflexion sur son propre voyage en se disant qu'on n'est pas si mal sur Terre et qu'il s'agirait d'enclencher les démarches maintenant, immédiatement, pour sauver cette planète plutôt que d'en chercher une autre.
Hey Ryan,
what?
It's time to go home.
C'est ce qu'on appelle l'overview effect, l'effet de surplomb, qui est décrit par de très nombreux astronautes qui reviennent. Thomas Pesquet en a d'ailleurs récemment parlé. Donc il a eu un changement cognitif gigantesque quand il a vu la Terre de l'espace. Il s'est rendu compte de l'interconnexion du vivant, en fait. Des continents, des mers, du ciel, de toutes les espèces sur Terre. Et ça a eu vraiment un effet très fort sur lui. Et d'autres astronautes en ont parlé. Hein. Ils sont des dizaines à en avoir parlé. Et au retour sur Terre, ça a fait un changement gigantesque dans leur façon de voir les choses et il y a un engagement écologiste en général à la clé.
Cet overview effect, dit en français l'effet de vision globale, est connu depuis les années 70 et les premières missions spatiales. Les premières images de notre planète apparaissant comme en monde fini, bleu, magnifique, suspendu dans le vide spatial, ont même contribué à la construction d'une conscience écologique dans cette décennie des années 70. Dans l'espace, l'astronaute fait l'expérience intense de la peur et du silence. Il fait l'expérience de la fragilité humaine, au point de vouloir retourner dans son berceau. Notre planète apparaît alors comme un refuge. La Terre s'impose comme la mère patrie, une idée qui est aussi exploitée au cinéma par la mobilisation de plus en plus fréquente de personnages féminins parmi les héros du cosmos.
Les femmes astronautes ont beaucoup été représentées par rapport à leur défaut de maternité. Il y a toujours un lien entre la Terre qui est devenue infertile pour la vie humaine, qui est en plein dérèglement climatique, qui est en train de brûler, et on fait un parallèle très fort avec le défaut de maternité de ces femmes astronautes. C'est-à-dire que soit elles ont perdu un enfant, et un enfant qui est malade sur Terre.
Ouais. C'est vrai que c'est tout à fait le point, c'est que là aussi, via la fonction biologique de la femme, on introduit ce cordon ombilical entre la Terre et les astronautes qui partent. Alors qu'il pourrait tout à fait être présent pour un personnage masculin aussi, etc. Malheureusement, c'est un peu pour ça qu'on a repris des personnages féminins, pour avoir ce lien entre maternel, hein, entre le berceau et l'enfant, entre la planète et les astronautes.
L'image est maladroite, mais elle se veut percutante. Elle témoigne surtout de l'intention de réinterroger l'opportunité de l'exploration spatiale. Vu sous cet angle, la science, comme la science-fiction qui permettent le voyage dans l'espace, donne tort à Hannah Arendt. Quand l'homme s'éloigne de son sol natal, c'est pour mieux le retrouver. Quand il conquiert l'espace, il découvre la Terre. Donc on résume. Alors que la Terre reste le seul endroit vivable de notre environnement galactique proche, des promesses et des projets abracadabrants, confortés par un cinéma de science-fiction inventif, continuent de véhiculer le mythe prométhéen de la conquête. Coloniser Mars ou une exoplanète, installer des colonies flottantes dans l'espace, tout cela nourrit une dangereuse illusion de toute puissance, alors que la situation de l'humanité n'a jamais été aussi précaire. Ça nous éloigne du vrai débat, des vrais enjeux. Dans une lettre ouverte adressée à Thomas Pesquet, publiée dans le journal français Libération en juin 2019, plusieurs astronomes ont écrit « La recherche sur la conquête spatiale prend le risque de masquer une évidence. L'humanité n'a pas une nécessité urgente à quitter la Terre. » Mais elle a une nécessité urgente à trouver comment y rester, avec des conditions de vie décentes pour tous. C'est aussi ce qu'ont dit les scientifiques de l'UNAMUR tout au long de cette série en 3 épisodes. si la recherche sur le spatial est irrésistible, instinctive presque, si elle donne des réponses aux questionnements les plus métaphysiques sur nos origines, si elle nous a fourni des révolutions technologiques et qu'aujourd'hui, elle nous permet même de nous protéger du dérèglement climatique, il faut la préserver. La dissocier absolument des projets dantesques de tourisme et de colonisation spatiale. On a rencontré des chercheuses et des chercheurs passionnés, convaincus, dévoués, mais aussi parfois tourmentés par les dérives qui pourraient découler de leur science. Avec eux, on a découvert l'espace comme le théâtre d'une humanité en quête d'elle-même et de son propre dépassement.
Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus Plantin.
Merci à vous d'avoir écouté cette série « Vers l'infini et au-delà » du podcast Hector. Merci à tous ceux qui y ont participé. Dans ce troisième et dernier épisode, Péché spatial, vous avez entendu une composition musicale originale d'Alexandre Rollman. Le montage, c'est Valentin Meis. Les voix additionnelles sont celles de Raphaël Volon et d'Anne Roukens. Vous avez entendu des extraits des films Le Pacha de Georges Lautner, Gravity d'Alfonso Cuarón, La Zizanie de Claude Zidi, Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret et Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Il y avait aussi un extrait de la série d'animation Rick et Morty de Justin Roiland et Dan Harmon. Enfin, vous avez entendu des morceaux de chansons, Pas très original de Ben Mazuet, Le Beau Danube de Richard Strauss et L'Enterrement de la Lune d'Art Mengo.